Tout de suite, on va démarrer notre séquence tendance. Et comme vous le savez, on commence toujours par la gastronomie à cette heure-là. Et aujourd'hui, c'est le chef Abdel Alaoui qui va passer pour nous au fourneau. Et j'imagine que vous vous êtes levé tôt, Abdel, ce matin pour pétrir toutes ces miches.
Bah oui, comme tous les boulangers à 4h du matin.
C'était pas désagréable.
C'était pas désagréable.
Il y en a chaud.
Ils viennent de partout, ceux-là.
Ils viennent de partout. Vous allez voir, on va faire découvrir des plats du monde entier.
Allez, génial. Ensuite, ce sera à votre tour, docteur Aurène Marco, de nous éclairer, non pas sur les miches, mais d'une certaine façon,
on n'est pas très loin.
J'essaie de trouver une transition. Je me suis dit, elle donne les miches. Alors on va parler de décolleté.
On va parler de décolleté, mais pas forcément des miches.
Bon, très bien.
Et enfin, on va terminer ce tour de table avec notre coach préféré, Jean-Marc Delorme. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on n'est que le 4 janvier. Vous n'allez pas nous torturer trop fort, j'espère. Parce que moi, quand j'attaque trop fort, eh ben, je lâche trop vite. Et la neige, elle est trop molle. Et on veut tout. Ce qu'on veut, nous, c'est tenir le rythme toute l'année.
Mais oui, c'est pour les bonnes résolutions. On a décidé de se remettre au sport. Bah, c'est maintenant. Voilà, je vais vous dire comment le faire et comment rester dans cette motivation.
Exactement. Eh bien, merci Jean-Marc, ce sera avec vous dans quelques minutes, mais tout de suite, on passe en cuisine et ça va pétrir dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Mon cher Abdel Alaoui, très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Je suis certaine que grâce à vous, 2002 sera aussi appétissante, au moins du point de vue gustatif, que 2021. Hein. Donc on va parler de pain. De toute façon, c'est tout ce qui nous reste, hein, la bonne chair. Donc le pain, c'est à vous. Il y en a de toutes sortes, là, je vois sur
toutes
la table.
Alors je suppose que tout le monde a pris ses résolutions. Moi, pour 2022, la mienne, c'est de manger encore plus de pain.
Oh, la chance.
Un pain comme vous avez jamais vu. Un pain qui sera si bon, vous ne pourrez plus dire « j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain ». Vous direz « j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage ». Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci.
Bravo, alors, Rému.
On a reconnu la femme du boulanger, ce petit passage de Rému. On est d'accord, rien de tel que d'entamer sa baguette encore chaude quand on sort de la boulangerie. Hein, sentir sa croûte croustillante, goûter sa mie tendre et pleine d'arômes. L'arôme de la noisette grillée, l'arôme du beurre, l'arôme du brûlé. Aliment indispensable, sujet inépuisable. Le pain a pris place dans nos vies, les amis. Le pain, c'est bon et ça se partage avec tout le monde. Le pain, c'est l'amour, le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la survie. Le pain est aussi politique. Regardez, la meilleure baguette parisienne, elle est distribuée à l'Élysée tous les ans.
Mais vous avez des chiffres, Abdel, au sujet du pain?
Alors, il y a 320 baguettes de pain qui sont consommées et produites chaque seconde en France. Vous le saviez?
Chez Julia Vignali?
Oui,
c'est moi qui
l'ai pétri. Soit 10 milliards de baguettes par an, chaque Français consomme 120 grammes de pain par jour, soit 3 fois moins qu'en 1950. Oui, on mange moins de pain.
Ah ouais.
Alors parce que la qualité effectivement du blé, et avec tous les plats qui se mangent effectivement sans pain, on mange moins de pain. Il existe 32 000 boulangeries en France. Oui, je les ai comptées.
On mange encore beaucoup de pain en France, Abdel, ou pas?
Alors en 10 ans, le prix de la baguette a augmenté déjà de près de 24%. Je ne sais pas chez vous, elle a combien la baguette?
1,20€. Je prends une baguette un peu spéciale.
Les gens changent et choisissent les quartiers suivant le prix de la baguette quand même. 95% des Français mangent du pain au cours du déjeuner et du dîner. Il existe une journée mondiale du pain. Elle est célébrée le lundi 16 octobre. Et en 2018, Emmanuel Macron souhaitait inscrire la baguette française au patrimoine mondial de l'humanité.
Carrément.
Ouais. Alors la France n'est pourtant pas la 9e pays en consommateur de pain. Derrière la Turquie, l'Algérie, la Serbie, la Bulgarie, l'Allemagne, Chypre, la Grèce et les États-Unis. Alors bien sûr, les recettes varient d'un pays et d'une tradition à l'autre. En tout cas, ça donne envie de voyager et d'aller goûter.
Alors quelles sont les différentes variétés de pain dans le monde? Parce que j'en vois plein là autour de vous, Abdel.
Alors on a ce qu'on appelle les feuilles de pain, c'est des feuilles de briques. Il y a le pain azim, vous connaissez, la galette bretonne. Après on a les pains garnis ou fourrés, genre la pizza, la pissaladière, le manakish libanais ou jordanien, c'est un pain assez gras avec du thym par-dessus.
J'adore celui-là.
Les pains levés à croûte croustillante. La baguette, alors évidemment. Alors moi je suis parti chercher chez mon ami Racine à Boulogne-Billancourt. Il est venu vers Victor Hugo, il fait une baguette au chanvre.
Ah, c'est j'adore le chanvre.
Vous voulez goûter, je vais vous donner un petit morceau. Allez, hop, donnez, hop. Voilà, vous allez goûter.
Un petit morceau,
il m'a donné la moitié de la baguette.
Il fait plein de bains comme ça traditionnels, et surtout il a un pétrin naturel avec 100% bio.
Comment c'est au chanvre alors, Julien?
C'est bon, hein?
Bah attendez, je viens de le mettre dans ma bouche, je vous le dis dans 10 secondes.
Ok, alors continue Abdel.
On a les pains secs, en Suède on a le knack brod, le carazo sord ou l'espadisimo grec, c'est des pains qui sont cuits deux fois pour bien les sécher. On a les pains noirs, en général on les retrouve dans les pays où le blé a du mal à s'acclimater, en Europe du Nord par exemple. Et on a les pains qui sont cuits au four, la tortilla, le bagel, le pao vietnamien.
Je voudrais faire un point sur le pain au chanvre qui est délicieux. Voilà,
c'est bon,
je vous le dis. Délicieux.
Voilà. Et vous sentez bien, ça va tout...
Mais non, mais il n'y a pas de.
Il n'y a pas de CBD, il n'y a rien.
Cannabis.
Ouais, et il y a un petit goût comme ça d'antan, un petit goût ancien. Alors il y a les pains de mie, il y a les pains plats. Le badboute qui est là, juste là, regardez.
Ça, c'est le
pain marocain, le badboute qui est juste là. Ça, c'est hyper bon. Après, on a les msemen. Alors, ça, c'est une petite galette marocaine.
Oh, ça, je veux bien.
Plein
aussi.
De gras, plein d'huile qu'on cuit sur une plancha.
Oh là là. On peut le manger comme ça à sec ou pas?
Allez-y, il y a 3000 calories par bouchée. Après, on n'oublie pas les pains rituels, le kouglof, le panettone. En général, évidemment, plein de gras, plein de sucre. Alors, je vais vous faire évidemment découvrir une recette hyper simple d'un pain indien qu'on appelle le chapati. Est-ce que vous connaissez le chapati?
Mais oui.
Ah, pas du tout.
Alors
ah.
ça se prépare vraiment en 15
c'est bon,
minutes.
Ça.
Il vous faut 300 g de farine, du sel, 50 g de beurre fondu ou du ghee. Le ghee c'est un beurre rance, du zartar et 10 centilitres d'eau tiède. On dépose la farine comme ça sur son plot de travail, on fait un petit puits au milieu, on rajoute le beurre fondu, l'eau, le sel, le zartar, on pétrit bien de sorte à former une grosse boule. Après, vous divisez cette grosse boule en petites boules. On vient les étaler très fines, vraiment un demi-centimètre comme ça de d'épaisseur. Et on va les cuire dans une poêle très chaude, une minute de chaque côté. Et on tartine de beurre et de miel et c'est une tuerie.
Il y a donc déjà du beurre dedans.
Et on
remet
du beurre
dessus.
Bah oui, c'est bon le pain, c'est gras.
C'est pas mal.
Et,
hein.
Et c'est quoi là, les autres pains?
Alors là, c'est un pain de mie qui vient toujours de la boulangerie Racine.
Merci. Oh là là, qu'est-ce qu'il est
mauvais. Là, on a le muffin. Vous connaissez le muffin?
Oui.
Au blé complet. Là, c'est ce qu'on disait, les pains qui ne sont pas cuits au four. Donc ça, c'est la tortilla, la connaissez.
Moi, j'aime moins
voilà.
ça.
Ouais. Là,
c'est pour faire des tacos, ça.
Ouais, ouais. Je suis pas la référence, tortilla, tacos. Et on a les pains noirs, les pains comme ça, qui sont pas forcément levés, qu'on retrouve beaucoup dans les pays scandinaves.
C'est lequel votre préféré à vous, Abdel?
Moi, c'est le naan indien.
C'est vrai.
J'adore ça.
Ouais. Mais vous le travaillez comment? Vous mettez quoi dedans?
Bah, pareil, c'est à peu près la même recette que le chapati. Donc c'est que de la farine, un peu de beurre, un peu de sel, un peu d'eau. On pétrit bien. Et en fait, quand on va faire chauffer sa poêle très chaude, on va poser cette petite galette dans la poêle et elle va souffler automatiquement. Après, il y a le cheese naan.
Docteur Aurel Marco, je vous ai entendu faire à chaque pain qui passait.
Très envie, mais je me demandais quel était le pain le moins lourd, en fait, finalement, le plus diététique.
J'ai l'impression que c'est la tortilla quand même. C'est une farine de maïs.
Ouais, après, c'est un goût de papier.
Allez, envoie la tortilla.
C'est ça la tortilla? Et ça, c'est quoi? Parce que j'aime beaucoup.
C'est la msemen.
Celle qui
glisse. C'est 3000 calories.
Ça, c'est ce qu'on mange au petit déjeuner.
C'est celle qui a laissé vos mains toutes grasses, là, vous la laissez. C'est délicieux.
C'est hyper bon, ça.
Jean-Marc, est-ce que vous avez un petit chouchou dans tout ce qui nous a été présenté?
Alors, moi, je fais toujours attention à ce que je mange, mais j'ai un péché mignon. C'est quand même le pain. J'adore tous les pains. C'est terrible.
La baguette au chanvre, là, c'est une tuerie. Franchement, elle est hyper bonne.
Et l'indice glycémique de ce genre de choses, c'est énorme ou pas?
Tu n'as rien du tout. Moi, je mange.
Jean-Marc, vous avez
ça.
Une idée de l'index glycémique de tout ça? Oui, c'est...
J'ai aucune idée.
Ouais. Je préfère pas le savoir.
Le mieux, c'est de rajouter du beurre dessus. Hein.
Ah, bien sûr. Et de le faire un peu griller, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand la baguette, elle est bien grillée et juste un peu avec du beurre salé. Fondu.
Et le matin, moi, petit-déj avec de l'huile d'olive et un peu de sel dessus.
Ah,
et je trouve ma petite baguette bien chaude dessus.
On peut venir faire apprendre le petit-déj chez
Venez
vous.
Chez moi. La maison est grande.
Bon, bah, merci beaucoup Abdel pour ce tour du monde du pain. Faute de pouvoir vraiment voyager, au moins on a découvert dans l'assiette ce qui se fait ailleurs et ça fait vraiment du bien, merci. On revient dans quelques instants avec d'autres tendances, les conseils beauté du docteur Aurel Marco, ce qui se fait de mieux et les dernières techniques pour un décolleté au top. Et puis ce qui est toujours tendance en 2022 comme en 2021, 2020, 2019, 2018, c'est de se remettre vraiment au sport. Alors cette fois c'est la bonne, on va y arriver grâce au super coaching que nous a concocté Jean-Marc Delorme. Que du bon, du beau à venir et c'est normal, vous êtes toujours sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali,
Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre bande de chroniqueurs toujours autour de la table, hein, que des hommes aujourd'hui, et quels hommes, hein, le premier Abdel.
Des hommes
des, non, quel, oui, quels hommes, quel homme quels,
bah, comment on dit hommes
quel, je sais pas.
Comment enfin,
on dit
en tout cas, ils sont beaux. Hein.
Quel homme.
En fait, bon, bref, que des hommes de qualité, on va dire. Abdel nous a déjà bien régalé avec ses pains venus d'ailleurs, qu'on vous postera bien sûr sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont aussi magnifiques que bons, donc on va vous montrer tout ça avec les petites légendes qui vont bien pour vous expliquer à quoi correspond chaque pain. Et à présent, c'est à un autre homme, hein, qui va nous voilà. émerveiller. C'est à vous, docteur Aurène Marco. Faites-nous un petit tour de magie, enfin surtout un décolleté de rêve.
Eh ben, je me demandais si vous preniez soin de votre décolleté, les filles comme les hommes. Non, est-ce qu'on fait un petit peu attention? Est-ce que quand vous allez au soleil, vous mettez de la crème? Est-ce que vous hydratez correctement? Parce que on peut vieillir du décolleté.
Il faut mettre de la crème hydratante sur les seins.
Eh bien, en fait,
moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait traiter son décolleté comme on traite son visage.
Exactement, c'est-à-dire que souvent.
Avec respect.
Non, mais
je vous dis pas à quoi je vais ressembler dans le sang.
Souvent, on prend beaucoup soin de son visage et on oublie deux parties du corps qui sont quand même découvertes.
Les seins et les pieds.
Non, mais les mains en tout cas, très important. C'est vrai que les mains, elles sont toujours découvertes en hiver ou en été. Et puis souvent, on a le cou et le début du décolleté qui est découvert. Donc on peut vieillir effectivement du décolleté et c'est souvent une demande qui revient en consultation. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai des petits plis par exemple au niveau du décolleté.
Ça commence, moi je commence à en avoir trois.
C'est incroyable.
Mais ça me rappelle ma mère en même temps.
Voilà, c'est, alors c'est Julia, est-ce que vous savez d'où ça vient, ces petits plis?
De sa mère.
Non, ça vient pas de votre maman, ça vient aussi de la façon dont vous dormez. Ah ouais. Est-ce que vous dormez sur le côté, un petit peu recroquevillé?
Je me plisse.
Voilà, et ben en fait, c'est la cause numéro un de ces petits plis radiaires, c'est la façon dont on dort. Donc c'est effectivement le matin au réveil, c'est très marqué, puis ça se détend petit à petit.
Donc il faut dormir sur le dos pour avoir un décolleté pas frippé.
Effectivement, pour pas se fripper le décolleté, il faut essayer de dormir le plus possible sur le dos et de manière détendue.
Donc, mais quand malgré tout on est frippé parce qu'on a trop dormi sur le côté et que c'est vraiment trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire?
Parce que c'est pas l'âge, on est d'accord. C'est juste de dormir sur le côté.
Évidemment, voilà, c'est pas l'âge.
Bon, on dort sur le dos.
On dort sur le dos. Donc ça, c'est une mesure préventive, effectivement, pour éviter leur apparition. Par contre, quand c'est apparu, ces petits plis radiaires, il n'y a pas de traitement miracle. On peut soit hydrater en appliquant des crèmes, soit hydrater en injectant des skin boosters, vous savez, l'hydratant spécial qu'on met un petit peu dans. On peut le mettre partout dans le décolleté, des petites injections
c'est
qui
génial.
Vont hydrater et limiter les petits plis. Et grande nouveauté, parce que ça, on en parlera dans le futur. Maintenant, on fait des injections de Botox très diluées qui permettent de diminuer les petites ridules sur de grandes surfaces.
Donc sur la là
exactement.
Entre les seins,
donc
mais
c'est
ça,
nouveau,
incroyable.
Ça va prendre de l'ampleur dans le futur et donc c'est pour une même unité, on va diluer énormément le produit.
Pourquoi il faut
ça,
le diluer par rapport à ce qu'on mettrait dans le front par exemple?
Parce que dans le front, le muscle est très épais et là on a envie effectivement de traiter uniquement la petite bande musculaire superficielle et donc comme la surface est grande, on peut pas injecter trop de toxines, on dilue le produit et ça permet de détendre au
et
mieux.
Et du coup, ils bougent plus, ils sont paralysés? Non,
non, justement, ça détend uniquement. Quand on met des petites doses, il n'y a pas cette notion en fait, de blocage, c'est vraiment une notion de détente musculaire et ça permet d'améliorer le décolleté.
Mais ça, vous dites c'est dans le futur, mais on le fait déjà un petit peu?
On le fait dans certains pays, c'est pas encore arrivé en France, mais les études sont en cours pour vérifier un petit peu et donner l'autorisation.
On avait les pains d'ailleurs et les techniques d'ailleurs aussi, esthétiques, c'est super.
Il y a le relâchement du thorax aussi.
Exactement,
existe,
alors
hein.
Du coup on peut aussi vieillir parce qu'on a perdu du poids ou alors tout simplement avec l'âge ce qui retient notre peau du thorax sur notre squelette ou sur nos muscles se détend, il y a des septa, ce sont des petites membranes qui maintiennent et ça peut relâcher. Donc quand on a ce relâchement, il y a deux façons de faire, soit on reprend le sport, effectivement on redonne un peu d'ampleur aux pectoraux et ça permet de redynamiser le décolleté.
On peut vraiment confirmer le décolleté?
Oui, effectivement, en prenant un petit peu de volume on arrive à combler. Alors c'est pas évidemment
pas magique,
comme ça pourrait
bien
être avec le Dr Marco, mais on aide en tout cas.
Et on peut également réinjecter un petit peu de graisse, donc on fait un peu de lipofilling. Et pareil, le lipofilling, c'est-à-dire d'injecter un petit peu de gras dans l'espace entre la peau et les fascias musculaires, c'est-à-dire la zone en dessous en profondeur, permettent d'améliorer l'atrophicité de la peau.
Je reviens, vous avez parlé donc des skin boosters, qui est une technique assez à la mode, on en parlait déjà
exactement.
Sur le visage il y a quelques semaines, mais là vous avez dit donc skin booster pour la poitrine, pour le décolleté. Qu'est-ce qu'on injecte avec un skin booster? Ça se passe comment?
C'est de l'acide hyaluronique, on injecte en fonction de la taille du décolleté, de la zone à traiter, 2 ou 3 ampoules en nappage, c'est-à-dire qu'on fait quelques petits points en fait, de mésothérapie un peu partout. C'est pas très agréable.
Mésothérapie, c'est-à-dire c'est vraiment vraiment en surface.
Ça veut dire
pas...
qu'on injecte vraiment dans la superficie, dans la couche profonde de la peau, c'est-à-dire qui s'appelle le derme. L'hypoderme, c'est la zone où on injecterait la graisse, c'est-à-dire la zone graisseuse. Mm-hmm. Mais en tout cas, juste au-dessus, vous avez le derme et c'est ça qui permet d'hydrater.
Et vous en pensez quoi, docteur, de la radiofréquence pour cette zone du décolleté ?
La radiofréquence, je trouve que ça marche très bien. Mais le souci que j'ai avec la radiofréquence, c'est que c'est quand même très limité dans le temps en termes de résultats. Je trouve qu'il y a un bel effet œdème, mais c'est une pratique qui est coûteuse. Et donc, pour quelqu'un qui veut allouer un budget très important à son esthétique, why not ? Mais pour quelqu'un de lambda qui a envie d'un résultat sur du plus long terme et de ne pas avoir à répéter les séances, je trouve que les injections marchent quand même beaucoup mieux et les mesures préventives.
D'accord. Et vous pensez vraiment qu'on peut prévenir tous ces problèmes ? Parce que, bon, bien sûr, on a parlé des solutions et des dernières techniques qui vont arriver.
On peut prévenir effectivement par le positionnement déjà, l'hydratation au quotidien, le fait de s'hydrater vraiment le décolleté de manière très importante et aussi éviter le soleil, parce que le soleil, en plus de tous ces phénomènes-là de petits plis, peuvent causer des petites taches pigmentaires sur le thorax. Et c'est vrai qu'on ne fait pas très attention, mais on peut avoir des petites taches qui apparaissent. Et ça, après, pour les faire partir, il faut soit du laser, soit des préparations pharmaceutiques chez le dermato.
Mais bon, qu'il y a des lasers ou des préparations, mais on est d'accord, on peut les utiliser, parce que sur les mains, ça se fait beaucoup, sur le visage aussi. Sur la poitrine, il n'y a pas de souci, c'est pas, la peau n'est pas trop fine,
on peut utiliser les lasers. Elle est au contraire bien épaisse.
D'accord, donc on peut. Bon, il y a quand même des solutions.
Et je crois qu'il faut éviter le tabac, évidemment. Hein, voilà, ça fait des petits plis aussi. Hein.
Les petits plis, la mauvaise circulation globale sur la peau altère effectivement et fait vieillir précocement.
Voilà encore une bonne résolution. S'occuper de son décolleté pour la nouvelle année.
C'est important.
Abdel, vous avez tout noté, j'espère.
J'ai tout noté. J'ai surtout retenu que le décolleté de Julia avait 30 ans d'avance que son visage.
C'est vrai que j'ai la peau du décolleté beaucoup plus jeune que la peau du... merci docteur Aurène Marco pour toutes ces explications. On a compris qu'un décolleté parfait, c'est pas si compliqué. Il y a des tas de solutions aujourd'hui. Et à présent, que le décolleté est nickel, enfin presque, c'est à tout le reste du corps qu'on va s'intéresser avec vous, Jean-Marc Delorme.
Oui,
je rappelle
que
vous êtes notre coach sportif. Alors, vous en doutez, hein, le 4 janvier, nos attentes sportives sont à leur maximum. On est ultra motivé pour le moment. Alors profitez-en, on vous écoute.
Alors déjà, c'est une période vraiment charnière en ce moment, parce qu'évidemment, on vient de passer les fêtes où on vient de se goinfrer. Hein, ça, c'est la
de se baffrer, on peut le dire.
Voilà.
Oui.
Et puis la deuxième, c'est vrai qu'en ce moment, avec la pandémie, c'est une période un peu difficile pour le sport. Donc là, il faut vraiment s'armer de motivation. Puis moi, je vais vous donner 2-3 trucs pour que ça dure, pour que vous puissiez poursuivre votre activité physique toute l'année dans les meilleures conditions. Juste une petite recommandation, l'OMS, juste pour la santé, préconise 150 minutes d'activité par semaine. Ça fait à peu près 30 minutes, 5 fois par semaine. Mmh. Et ça diminue de 80% les risques d'AVC.
Oui, mais si on fait 3 fois 1 heure par semaine, c'est déjà bien.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
C'est déjà pas mal.
Mais
vaut
mieux un petit peu chaque jour, hein, ou tous les deux jours. C'est
tous les deux jours, c'est un bon rythme. Ouais,
donc ça diminue les AVC, ça diminue les infarctus. Et comment on va faire pour que ça ne soit pas un feu de paille tout
Alors,
ça.
Comment on va faire ? Déjà, la première chose... c'est un bilan médical. Alors encore plus après 40 ans, juste vérifier au niveau cardiaque, ça c'est hyper important. Si vous avez plus de 40
Julia,
ans...
Julia, vous avez entendu un bilan médical. J'ai acheté une petite maison et j'ai fait un test d'effort.
Et ben voilà, très bien. Ah. Donc un petit un test d'effort, ça c'est quand même préconisé après 40 ans.
J'ai le temps encore.
Ouais.
Vous avez au moins 2 mois devant vous.
Deuxième chose, c'est vérifier vos articulations, tout le système musculo-tendineux, ostéo-articulaire, tout ça c'est important. Hein. Si vous avez des problèmes de genoux, c'est récurrent, de dos, etc. etc. Déjà, savoir où vous en êtes d'un point de vue médical. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être un bilan sportif.
Je me dis médical, gynéco, le mec, il a fait un blanc du
blanc
un bilan. Ah oui, c'est vrai qu'on parle de sport, j'avais oublié, pardon. Allez-y.
Alors, le bilan sportif, ça va être aussi hyper important, c'est-à-dire qu'il va falloir s'orienter sur votre choix. Quelle activité vous avez vraiment envie de faire ? D'accord ? Ouais. Donc ça, c'est
Julia.
Julia.
Quelle activité ?
Ah, mais moi, moi j'adore la boxe. J'aimerais bien faire de la boxe.
Par exemple.
Ah, moi aussi, on pourrait y aller ensemble.
Ah ben ouais. Donc, la boxe. Ça, c'est
je vais vous marrer, vous avez dit ? Ouais.
Alors là,
alors là,
il y a
un
embrouille au plateau. Donc ça, c'est la première chose. Combien de temps puis-je allouer, d'accord ? Combien de temps je vais pouvoir faire cette activité par semaine ? Sans que ça empiète sur mon temps familial,
sur mon
temps professionnel.
Il faut 2 minutes pour marrer, Julia, à la boxe, vous inquiétez pas. Non, mais j'ai un très bon droit.
Donc tout ça, il faut se poser ces bonnes questions et aussi faire quelques tests. Alors, vous avez pléthore de tests sur Internet, mais au moins un test d'effort, à savoir le test de Ruffier, par exemple. Hein, vous pouvez aller sur tous les sites Internet, il est parfaitement décrit. Et puis également, test de souplesse, au moins
moins. Voilà. Pour
mais je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le Tudor Lock. C'est quoi ça, l'échelle de Tudor Lock? C'est quoi?
L'échelle de Tudor Lock, alors c'est selon, on a beaucoup de montres connectées hein, oui, maintenant, voilà, et ça va être en fonction du nombre de pas. Ça aussi, ah ça oui. peut être un bon test. Donc en dessous de 5000 pas, on est inactif, ouais. d'accord. Entre par exemple 7005 et 10000, on est modérément actif. Et autour des 12500, on est très actif.
Sur mon site, hein.
Alors, d'accord. Bon, ça, vous avez ça maintenant sur les téléphones.
On va comparer avec Abdel. Hein. Hier, j'étais donc, à 10900 pas. C'est pas mal.
Mais c'est pas mal. C'est plutôt actif.
Ouais.
C'est bien. Donc ça vous donnait aussi des petites indications sur votre forme. Voilà. Alors le mieux évidemment, c'est d'avoir
des objectifs.
Julia Vignali.
Alors ça, c'est ce qui va vous faire durer. Enfin, ce qui va vous faire perpétuer
la motivation.
La motivation, c'est les objectifs. Alors déjà, choisir des objectifs qui sont atteignables. Inutile de vous dire si vous voulez faire un marathon dans 3 mois et que vous avez du mal à boucler un 10 km, déjà, c'est
mais
pas
ça, ça serait un objectif de challenge, par exemple. Je veux faire le marathon. Voilà. Pourquoi pas
mais on n'a pas d'objectif physique.
Ça peut être un objectif physique.
Hein, j'ai envie juste être mieux gaulé. Ça,
moi, je voudrais avoir le look de Ryan Gosling, par exemple.
Je vais faire ça, Docteur Beauty.
Alors, il faut être progressif aussi. Ça, c'est,
moi,
c'est
j'ai envie d'être J-Lo. Jennifer Lopez.
Et bah, c'est possible. Et bah, voilà. Alors, tout est possible, mais il faut que ce soit, hein, vous avez compris, justement, par des objectifs intermédiaires. Hein.
Vous, je ne sais pas, c'est en kilomètres. Vous avez fait 2,8 km hier. Je ne sais pas si c'est beaucoup en pas, je ne m'en rends pas compte.
C'est
énorme.
C'est en voiture,
c'est
Julien, peut-être. Non,
c'est
en
je pense que je les ai fait en taxi. C'est pas si mal.
Ah, c'est en taxi, je le disais aussi.
Donc, les objectifs atteignables, de choisir des intermédiaires, tout ça, c'est hyper important. Et donc, ça va passer par la motivation. D'accord. Il y a deux sortes de motivation, la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui va être procurée par la pratique elle-même, d'accord ? Ouais. Je fais du ski, j'adore la sensation de glisse, c'est une motivation intrinsèque.
D'accord. J'aime le pain, je continue à manger du pain, ça c'est voilà. intrinsèque.
Ou alors la motivation extrinsèque, qui est par exemple, je fais du sport parce que ça me permet de perdre du poids.
Ah,
donc, c'est pas lié à l'activité ça, directement, mais j'en ai des conséquences.
Ce que je veux. D'accord. Ça me permet de manger ce que je veux.
Ça, c'est
Aurène, vous êtes plutôt sur celle-là, non ?
Moi, je suis plutôt sur ça.
Ouais. Mais Jean-Marc, je vous entends souvent dire qu'il faut être régulier, et ça c'est sûr, mais de ne pas dépasser au départ 2 séances par semaine. Pourquoi ?
Alors, de ne pas dépasser, c'est une manière de parler, mais au départ, il ne faut pas non plus s'épuiser. On risque de blesser, on risque de perdre la motivation si on est trop fatigué.
Donc,
etc.
On y va donc, mollo, vraiment.
On y va mollo. Les 2 heures par semaine, c'est déjà pas mal.
Il y a des gens qui convient trop de leur dire d'aller mollo. Il faut les pousser.
Oui, bien sûr. Mais bon,
un petit coup de pied aux fesses.
Il faut y aller à partir de 2 heures par semaine, et puis après, on progresse petit à petit. Mais bon, ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon.
C'est sûr. Merci voilà. beaucoup, Jean-Marc.
La dernière chose, l'alimentation, évidemment, ça va de pair avec le sport.
Vous savez qu'on en parlera. Voilà.
Sans tomber dans du staccanovisme, mais on fait quand même attention.
Vous me donnez
à ce
envie de reprendre un peu de pita.
Allez, prenez un peu de pain, Julien. Merci beaucoup, Jean-Marc,
merci
pour tous ces conseils sportifs. S'il y a bien un jour de l'année où on les accueille avec la plus grande motivation, c'est bien là, hein, le 4 janvier.
Ça,
mais promis, on va tenter bien sûr cette fois de les suivre vraiment toute l'année. Toutefois, heureusement que vous êtes là tous les mardis hein, pour la petite piqûre de rappel, on ne sait jamais.